Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.
C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Bulle, la radio de l'Agenais avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 19h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Radio Bulle.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition inédite de Chut, on écoute la télé, consacrée aujourd'hui en partie au grand lancement de la saison 3 de la série Sam, qui sera lancée ce soir sur TF1 à 21h10. Et à cette occasion, eh bien, nous allons recevoir l'héroïne de Sam, Natasha Lindinger, qui sera avec nous d'ici quelques instants, qui n'est pas venue seule, puisque Arnaud Sélignac également sera avec nous, le réalisateur des 4 premiers épisodes, ainsi que les scénaristes de la série. Évidemment, on vous dira tout, comment est écrit une série tout à l'heure. Et puis Michael Cohen également nous rejoindra en deuxième partie pour nous parler de son rôle dans la série, bien évidemment. Et puis nous passerons en revue également les coups de cœur télé de cette semaine, avec notamment le documentaire de France 5 qui sera diffusé demain soir, L'Enfant de tous les possibles. Sa réalisatrice Lorraine de Bézieux sera en ligne avec nous. Et puis nous aurons le plaisir de recevoir Valérie Damido également, qui nous dira tout sur ses projets 2019 et qui nous dira notamment si ses émissions sont reconduites. Nous parlerons également à nouveau du palais idéal du facteur cheval que nous avons visité pour vous, Raphaël, qui se trouve être première adjointe à la mairie de Haute-Rive et qui s'occupe notamment du palais idéal, va nous parler du tournage qui a eu lieu sur place à Haute-Rive dans la Drôme. Elle sera tout à l'heure avec nous. Et puis en fin d'émission, c'est un grand plaisir pour nous d'accueillir la chanteuse Oshi qui sera avec nous. Alors, comment a-t-elle vécu le succès de son album La Scène? Nous allons évoquer évidemment tous ses souvenirs et ses projets avec elle. Alors surtout, rendez-vous à ne pas manquer. Mais juste avant d'accueillir l'équipe de Sam, on va passer en revue les audiences de la semaine dernière, si vous le voulez bien.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences de la semaine dernière, on commence évidemment avec Infidèle, hein, sur TF1 lundi dernier, qui arrive en tête des audiences et qui termine la série avec plus de 5 millions de téléspectateurs pour 23,4% de part de marché. Deuxième des audiences, c'est Cauchemar en cuisine sur M6, avec notamment 2 503 000 fidèles et 11,3% de part de marché. Petit score pour France 2, qui avait remplacé, vous savez, sa série The Detail par Alex Hugo, et des rediffusions eh bien, qui ne font pas recette non plus, hein, avec seulement 2 158 000 téléspectateurs et 9,5% de part de marché. Mardi, il y avait SWAT, hein, sur TF1 avec 4 500 000. La série confirme son succès et 19,8% de part de marché. La série de France 3 continue à bien fonctionner avec, au-delà des apparences, c'est 14,4% de part de marché et 3 360 000 téléspectateurs. Nagui et Michel Simès font recette sur France 2, plus de 3 millions de téléspectateurs et 14,5% de part de marché. Et c'est un score tout juste dans la moyenne pour Patron Incognito, avec 2 327 000 téléspectateurs et 10,3% de part de marché qui ont suivi le patron de Léonidas. Et puis mercredi, il y avait Esprit Criminel sur TF1. Et bien, grâce à la série, TF1 repasse en tête des audiences après avoir déprogrammé New York Unité Spéciale. Et bien, Esprit Criminel s'en sort bien avec 4 350 000 téléspectateurs et 18,3% de part de marché. Philharmonia sur France 2 démarre plutôt bien avec 3 625 000 téléspectateurs, 15,2% de part de marché. Et c'est un petit score, hein, pour le meilleur pâtissier, chef et célébrité sur M6, avec seulement 1 950 000 téléspectateurs pour un petit 10% de part de marché. Jeudi, le retour de Profilage a bien fonctionné, 4 984 000 téléspectateurs, 24,1% de part de marché. L'émission politique sur France 2 a tout juste fonctionné, 11,4% de part de marché et 2 015 000 téléspectateurs. Et puis enfin, eh bien vendredi sur TF1, eh bien il y avait un divertissement et c'est France 2 qui s'en sort bien évidemment, toujours en tête avec Shérif et sa toute nouvelle saison inédite à ne pas manquer. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière. Et attention, dans les news médias tout à l'heure, nous vous dirons qui va succéder à Juliette Roudet dans Profilage, justement pour les fans de la série qui savent, hein, évidemment que Juliette Roudet quitte la saison à la fin, hein, des épisodes que vous êtes en train de voir en ce moment.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va démarrer notre spécial Sam, la série revient. Eh bien, ce soir sur TF1, on est très heureux de retrouver cette saison 3 avec cette héroïne au tempérament fort et Natacha Lindinger qui est avec nous. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a également Arnaud Célignac, le réalisateur, qui est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Qui a réalisé les 4 premiers épisodes qu'on verra donc ce soir et lundi prochain. Et puis les scénaristes également de la série qui sont avec nous. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être là. Première question à Natacha, ça fait quoi d'incarner une héroïne au tempérament fort comme ça maintenant depuis 2 saisons? Après Hard, c'est un joli rôle, un joli deuxième rôle qu'on vous offre dans votre carrière, Natacha.
Alors ça fait quoi? Ça fait du bien parce que ça fait quand même du bien pendant 80 jours de jouer un personnage comme celui-là, qui est assez libre, un peu bancal, un peu folle, comme on disait, qui boit, qui fume, qui baise et qui fait bien ce qu'elle veut, même si elle s'en sort plus ou moins bien. Et puis une prof comme celle-là, voilà. Non, ça c'est un vrai bonheur à jouer. Et j'espère que ça va reprendre l'année prochaine et l'année d'après encore, voilà. Après, par rapport à Hard, oui, c'est deux types de rôles très très différents, mais c'est peut-être les deux rôles qui m'ont fait le plus plaisir à trimballer, voilà. Et même qui m'ont apporté, voilà, qui font que j'ai l'impression d'avoir fait un travail d'actrice différent depuis Hard jusqu'à maintenant, voilà.
Natacha, moi je suis sûr que dans la rue, il y a plein de jeunes qui vous arrêtent en vous disant « Je rêverais d'avoir une prof comme ça. »
Ouais.
moi, j'en aurais rêvé, personnellement.
Ouais, ils ont bien raison. Moi aussi, j'aurais bien rêvé d'en avoir une comme ça. Ouais, absolument. Oui.
Arnaud, cette nouvelle saison, alors vous avez réalisé les 4 premiers épisodes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme fil rouge de cette saison?
Le fil rouge, bah, c'est effectivement le Sam qui va découvrir... Qu'elle est atteinte d'une maladie, enfin entre autres d'un cancer, et qui effectivement va être obligée de se soigner, et la difficulté qu'elle va avoir à l'assumer, à le dire à ses proches, c'est-à-dire à ses enfants, à ses amants, à ses ex, et aussi à l'administration. De l'école, quoi.
De l'éducation nationale.
L'éducation nationale, voilà. Et ça va être tous ces questionnements qui vont rendre le personnage beaucoup plus humain, fragile et encore plus rock'n'roll, certainement, que la saison précédente.
Ouais. Ouais, c'est intelligent d'ailleurs d'aller explorer un peu le côté maladie chez une héroïne, justement, comme ça, qui a un peu une liberté sans limite. Qui c'est qui a eu l'idée au niveau du scénario?
Bah, je crois que c'était toutes les deux, donc comme on est scénariste principal et qu'on cherchait, on se voyait pour chercher des idées de ce qui pouvait arriver à cette héroïne. Voilà, c'était la saison 3 et on avait envie de trouver quelque chose qui puisse, en fait, on avait envie d'explorer le côté faible de cette femme qui se croit toujours hyper forte et de montrer autre chose aux téléspectateurs et de découvrir autre chose chez elle.
Et de voir comment la maladie, ça change les gens, comment comment un cancer du sein, ça change Sam. C'est pour ça qu'elle doit faire le point sur sa vie, elle a peur, alors qu'elle n'aime pas montrer ses peurs, elle n'aime pas montrer ses sentiments. Là, elle est un peu au pied du mur, mais à la Sam. C'est pas Madame Tout-le-Monde, c'est un personnage qui est particulier et qui affronte sa maladie avec son tempérament bien à elle.
J'imagine que ça va être traité à la Sam, mais Natacha, comment vous avez réagi quand les scénaristes vous ont dit « voilà, on va intégrer un peu la maladie au cœur de cette 3e saison »
Ben, je me suis dit « c'est très tendance » parce que malheureusement, comme on le sait, hein, on y passe presque toutes à un moment donné, enfin c'est ce qui est prévu malheureusement, donc c'était bien de le traiter. Et puis, ce qui était bien, c'est que c'était pas, on n'a pas tourné autour, voilà. Ça commence, on va voir le médecin, il y a une mammographie, il y a des radios, il y a les étapes, on ne sait pas comment ça va évoluer, il y a tout ça, techniquement, quoi, voilà, médicalement, techniquement, et on y va et c'est filmé. C'est pas glamour, c'est juste réaliste. Et après, il y a Sam, qu'est-ce qu'elle en fait, quoi, son rapport à la médecine, son rapport aux enfants, à la vérité, au corps, à la sexualité, qu'est-ce que ça représente pour elle, là où ça va la faire évoluer ou pas, voilà, ses peurs. Non, j'ai trouvé ça très important qu'on traite ce sujet-là. Je suis très concernée. Et puis c'est fait quand même, oui, ça reste une comédie, donc c'est bien de le traiter aussi comme ça, voilà.
Oui, de cette façon-là, qui peut peut-être peut-être permettre de moins voir les choses en noir après.
Il y a un médecin qui a lu les textes, un spécialiste de cette maladie, du cancer du sein, et ça a été tourné dans un vrai hôpital, ces scènes-là. Donc c'est pas du chiquet.
Oui, parce qu'on trouvait qu'on avait une vraie responsabilité en parlant de ça, qu'effectivement il fallait vraiment parler de ça, il fallait pas s'en servir comme petit rebond d'histoire comme ça de temps en temps, et qu'il y a une vraie responsabilité quand on fait une série là-dessus.
Ça repose aussi sur la finesse de la mise en scène et du réalisateur. Non, mais aussi, c'est vrai, mine de rien, traiter la maladie, ça se traite d'une façon avec un personnage tel que Sam. Il faut aussi, voilà, le réalisateur derrière qui puisse se traîner avec cette finesse que peut avoir Arnaud.
Déjà, je vous remercie. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est justement de traiter ce sujet avec une femme qui est une femme forte, évidemment, mais qui découvre aussi sa part de fragilité, la limite de quelque chose, quoi.
Est-ce qu'il y a une scène qui reste sur cette saison 3 que vous avez eu un peu de mal ou que vous appréhendiez peut-être un petit peu?
Oui, il y en a une, c'est celle de la mammographie. Parce que d'abord, quand on les passe dans la vie, une mammographie, c'est très désagréable. C'est douloureux, souvent. Les gens sont pas toujours très sympathiques quand ils vous la font passer, parce que c'est à la chaîne, vous avez les seins écrasés. C'est très laid et ça a été filmé tel quel. Donc, je redoutais de la faire et puis je redoutais de la voir. Et celle-là, elle m'a marquée. Mais c'est bien, on est dans le vif du sujet et c'était important. Voilà. C'est Arnaud et c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a filmé, donc ça voilà. Mais parce que ça fait combien d'années qu'on en passe et qu'on se dit « Oh, faut y aller, c'est horrible !» Voilà. Et...
Ce qui a été compliqué, c'est que dans le plan de travail, cette scène a été tournée le premier jour de tournage. Et...
Le but, c'était d'évacuer.
Oui, j'aurais préféré, c'était le hasard, j'aurais préféré la tourner un peu plus tard, mais voilà. Bon,
c'est... Le premier jour de tournage où on se retrouve les seins nus devant 30 personnes qu'on ne connaît pas, écrasées entre deux plaques façon crêpe, et ça reste un petit peu 10 secondes avant de se redétendre après. Et on est quand même, mais c'est vrai, et on est quand même à poil devant des gens qu'on ne connaît pas le premier jour. Alors, on peut sourire, faire trois blagues pour avoir l'air détendu, mais c'est quand même juste abominable. Heureusement, j'avais déjà tourné avec Arnaud, donc j'étais en confiance. Et puis les gens sont bienveillants et discrets. C'était un petit peu pénible ce premier jour. Voilà, dans les couloirs de l'hôpital, un peu glauque et tout. Voilà. Mais sinon, le reste, non. J'ai aucun problème.
Alors, on va retrouver évidemment les enfants de Sam qui auront la part belle dans cette nouvelle saison aussi. Et on va retrouver. Ça va fighter un petit peu avec Véro quand même. Donc, encore dans cette saison.
Oui, oui, heureusement. Si tout le monde se met à s'aimer, faut que ça s'arrête après. Enfin, je veux dire, moi, si Sam devient normal et que tout le monde l'aime à l'école, je préfère rester chez moi. Hein. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse pas. C'est ça qui plaît aux spectateurs. Hein. C'est que ça marche pas avec tout le monde et qu'il y a des tensions, etc. Non, non, avec Véronique, ça va toujours pas terrible. Elles essayent, hein. Elles font des efforts quand même.
On en parlera avec elle parce qu'on la recevra justement lundi prochain. On va marquer une petite pause. Merci d'avoir été avec nous. On va revenir avec le personnage de Raphaël. On va parler de cette relation amoureuse un petit peu dans un instant avec Michael Cohen qui va nous rejoindre. Sam, c'est le retour ce soir et c'est à 21h10 sur TF1. Rendez-vous à ne pas manquer. Merci Arnaud.
Merci, merci à vous.
Merci beaucoup Natacha.
Merci, je vous en prie.
Et puis bon courage pour cette saison 3. En tout cas, je suis sûr qu'on va se régaler. Et merci aux scénaristes d'avoir été avec nous et de nous avoir un petit peu aussi éclairé sur le scénario. Je vous dis, en tout cas, et je vous souhaite une très très belle soirée sur TF1. Allez, tout de suite un extrait.
Ce que je ne comprends pas.
Je ne peux pas faire court dans ces conditions. Voilà. Vous êtes trop sage. Ok. Interro surprise.
Vous êtes sûr que ça va bien se passer?
Rassurez-vous, il est en très bonne main. Il faut être derrière ton cul 24h sur 24 pour que t'arrêtes de faire des conneries.
Il a juste besoin d'avoir des potes,
Matisse.
C'est Madame Moreau.
J'ai un cancer.
Si je suis pas invalide.
Faut savoir accepter l'aide des autres, intérieurement.
T'as raison. Tu m'énerves.
T'as mis ta main sur ma cuisse, ça m'a fait aucun effet. Je crois que je suis guéri de toi.
On est aussi là pour donner l'exemple.
Tu dépasses le bon, Sam. Tiens.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé, on continue notre spécial Sam, merci à toute l'équipe qui vient de nous quitter, Michael Cohen qui vient de nous rejoindre, et le rôle de Raphaël, bonjour Michael.
Bonjour, bonjour à vous.
On va marquer une petite pause, juste avant de se retrouver, vous restez là hein.
Je bouge pas.
À tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Chut, on écoute la télé spéciale Sam avec Michael Cohen donc qui est avec nous. Michael, rebonjour.
Bonjour, bonjour.
On va explorer un petit peu le personnage de Raphaël, qui est arrivé la saison dernière.
Hein. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, il débarque du lycée Henri IV. Et voilà, c'est un personnage qui arrive... il est un peu différent de tous les autres professeurs du collège de George Sand. Et peut-être c'est celui qui se rapproche le plus de Sam, on va dire. Qui est...
Son caractère ?
Et de son caractère, c'est peut-être, voilà, après Sam, c'est peut-être celui qui est le plus moderne, qui a un rapport aux élèves qui est un peu plus différent, qui est moins conventionnel. Et du coup, c'est pour ça que très vite, dans la saison 2, il s'accroche dans les deux sens du terme, c'est-à-dire il se cherche un peu comme chien et chat, et en même temps, ils sont aussi très attirés l'un vers l'autre parce qu'ils, je pense qu'ils se reconnaissent quelque part, oui.
Alors cette saison va être axée un petit peu, on le disait, hein, sur la maladie, sur le cancer de Sam. On va voir un petit peu comment Raphaël appréhende aussi, comment votre personnage appréhende l'accompagnement, hein, quelque part, de Sam dans cette épreuve.
Oui, alors bon, bien sûr qu'on découvre que Sam a un cancer du sein.
Lui ne va pas le savoir tout de suite. Hein.
Non, lui ne le sait pas tout de suite. Mais avant tout, on finit la saison 2 et dans le dernier épisode, le dernier plan où... Enfin, ce que je pense qu'on attend pendant toute la saison 2, enfin Raphaël et Sam vont fusionner intimement. Et donc
on a attendu 6 épisodes quand même dans la dernière. Hein.
Donc ça se finit comme ça et c'est quand même, on finit sur une scène qui est très intense. On sent que ça va être très passionnel entre eux, très très sexuel. On sent que ça va être ils ont attendu, mais quand ça sort, ça sort. Et donc en fait la saison 3 va démarrer. Ils vont vivre leur histoire de manière un peu cachée parce qu'ils ont chacun leur vie et ils veulent pas, ben voilà, et puis ils veulent pas officialiser les choses.
Parce que Raphaël est en couple dans la saison 2, faut le savoir quand même.
Mon personnage est toujours marié, etc. Et au début, je pense qu'ils ont envie d'être juste amants, mais très vite, c'est très intense entre eux, très fort, et donc ça va aller plus que voilà, ça va aller plus loin. Et quand Raphaël découvre que Sam a un cancer du sein. Sa réaction à lui, elle est... en fait, sa femme, la femme de mon personnage, est handicapée. Donc, il vit avec une femme handicapée depuis plus de 20 ans. Et donc, il s'occupe d'elle. Et donc, c'est quelque chose dont il a l'habitude.
C'est son quotidien.
C'est son quotidien. Et je pense que c'est un personnage qui aime ça aussi, qui aime s'occuper de la femme avec qui il est et qui ne fuit pas ce genre de responsabilité. Et quand il va apprendre la maladie de Sam... Sa réaction à lui, ça va pas du tout être un rejet, mais au contraire lui dire mais ça c'est pas grave, je suis là et ensemble on sera plus fort et un cancer du sein ça se guérit et que c'est voilà, t'es pas morte, t'es pas en train de mourir, il faut juste que tu t'affrontes cette épreuve là et donc il va être lui très responsable, sauf que Sam étant Sam, elle va avoir du mal à supporter d'être un poids, un fardeau pour cet homme, d'autant plus que au départ leur histoire c'était plutôt comme une bouffée d'air entre eux parce qu'ils avaient besoin de respirer, ils avaient besoin de vivre quelque chose de
l'un et l'autre
de quelque chose de différent et Sam au contraire va plutôt rejeter son aide et je trouve ça assez beau de la part des scénaristes et du réalisateur d'avoir retourné la situation et de là on n'est pas devant un homme qui tout à coup se dit ah ben non elle est malade alors j'en veux plus et la femme va dire mais pourquoi tu me rejettes voilà et donc c'est la situation inverse et je trouve ça très très beau et donc en fait mon personnage va essayer de se battre pour garder Sam malgré elle.
On va suivre évidemment ses aventures. Comment vous avez réagi au départ quand vous êtes arrivé dans la série, quand vous avez vu un peu en fait le personnage, son caractère, ce qu'il allait être? Est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu la saison 1 avec Mathilde Seigné pour vous imprégner un petit peu de l'ambiance hein, de la série?
Oui, j'avais vu la série quand elle était diffusée, donc avant de savoir que j'allais jouer dedans. Quand j'ai reçu la proposition et le projet, oui, j'étais... En fait, je crois que je rêvais de jouer un prof. J'ai eu une scolarité très chaotique, j'ai pas tellement aimé l'école.
Donc, fallait une vengeance.
C'est un peu, oui, c'est un peu ma vengeance sur l'éducation nationale. Et puis j'avais envie de créer un professeur un peu rêvé comme j'aurais aimé avoir. Et en plus de ça, j'ai toujours adoré les films sur sur les collèges. J'ai toujours aimé que ce soit, je sais pas, Diabolomante, La Boum,
Le Maître d'école,
LOL, même. Enfin, je sais pas. J'ai toujours aimé ce genre de films. J'ai toujours aimé qu'on parle de la jeunesse en fait et de l'éducation et des histoires d'amour dans les écoles, etc. Enfin, ça a toujours été un thème que j'ai aimé.
Donc, du coup, c'est un peu un rôle rêvé.
Oui. Oui, c'était vraiment. J'étais très fier qu'on me propose. Enfin bon, voilà, j'ai pas eu mon bac, hein, je le dis. J'ai commencé les cours de théâtre quand j'avais 15 ans et très vite ça m'a pris toute mon énergie, mes envies. J'ai lu tout le théâtre. J'ai appris en fait la vie à travers Molière, Tchekhov, Racine, Marivaux. Mais j'ai mis de côté les mathématiques, l'histoire géo, les langues, etc. Et donc j'étais très fier de tout à coup rattraper quelque chose, quoi, voilà. Et donc, c'est un personnage que j'ai aimé tout de suite dans sa coolitude, quoi.
Donc c'est parti pour 4 soirées. 4 soirées avec 8 épisodes de 52 minutes qu'on va suivre donc pendant un mois.
Exactement. Ça va être un mois, je pense, pour les spectateurs de plaisir, vraiment.
Une saison à dévorer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire avec vous. 21h10, c'est le rendez-vous ce soir. Lancement donc de cette saison 3. Merci beaucoup, Mickaël.
Merci à vous, merci.
Et tout de suite, on va se refaire un petit extrait ring pour vous.
On se réveille.
Tu connais, toi, dans le rapprochement entre collègues, non?
Vous êtes tous très intéressés par ce que je fais de mon cul, mais moi, je voulais vous donner des nouvelles de mes seins.
C'est Madame Moreau.
Ouais.
J'ai préparé un programme réparé.
Je suis venue corriger mes copies peinards, j'en peux plus de voir leur tronche en bas.
T'inquiète pas, elle, je l'ai bien en main. Là, je veux dire, je gère la situation.
Merci beaucoup.
Tu me fais chier.
Ben voilà.
Alors, dans nos coups de cœur télé de cette semaine, nous allons consacrer un de ces coups de cœur à l'enfant de tous les possibles. Ça sera diffusé, eh bien, demain à 20h55 sur France 5 et réalisé par Lorraine de Bézieux qui est justement avec nous. Bonjour Lorraine.
Oui, bonjour. Merci de nous donner la parole.
Merci d'être avec nous surtout. Et je pense que vous avez assisté à un véritable parcours du combattant pour ces familles. Et racontez-nous un petit peu, voilà, de quoi parle le documentaire en quelques mots déjà.
Eh bien, le documentaire parle de ces familles qui sont un peu atypiques, qui ont bataillé comme des lions contre les préjugés, parfois même les leurs. Pour pouvoir créer, ils ont en fait bravé des tas d'interdits, des tas de tabous, parcourir parfois un nombre insensé de kilomètres, rassembler des sommes totalement conséquentes. Et ils se sont posé des milliards de questions qu'on se pose pas trop quand on fait un enfant d'une manière entre guillemets classique. Donc voilà, ils sont arrivés à braver leur peur et leur tabou pour faire un enfant. Et c'est pour ça que c'est l'enfant de tous les possibles.
Alors l'enfant de tous les possibles, est-ce que vous avez vu des familles désespérées au bord de jeter l'éponge? Comment s'est passé ce documentaire? Est-ce que ça a traversé des mois à suivre ces familles, hein, pour pouvoir suivre tout leur parcours?
Alors, ces familles qui ont un parcours effectivement du combattant, en fait, réalisent à peu près toutes les PMA interdites, c'est-à-dire toutes les procréations médicalement assistées qui sont interdites en France. Donc, ils vont soit en France, soit en Espagne, soit dans d'autres pays, et empruntent des chemins de traverse pour les réaliser. Donc, ça prend énormément de temps.
Est-ce que des familles ont eu vraiment des moments de doute, ont failli jeter l'éponge pendant le parcours que vous avez filmé ?
Complètement. Certains étaient vraiment arrivés au moment où on jette l'éponge, on arrête, et puis c'est là que effectivement la fécondation in vitro fonctionne. C'est la dernière chance, c'est l'enfant de la dernière chance, et ça fonctionne.
Lorraine, il y a des centaines de familles dans ce cas aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces familles-là?
Moi, ce qui m'a fait choisir ces familles-là, c'est que en France, le projet de révision des lois sur la bioéthique va être rediscuté, et donc avec lui des réflexions sur la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire on l'autorise aux couples de femmes, on l'autorise aux femmes seules ou pas. Et ce qui m'a fait choisir ces familles-là, c'est leur donner la parole et donner à voir de l'intérieur comment ces familles-là vivent et choisissent de procréer ou pas.
Alors, ce qui est bien dans ce documentaire, c'est que on peut identifier, voilà, toutes les familles qui peuvent être en difficulté dans ce genre de situation, qu'ils soient célibataires, qu'ils soient homosexuels aussi, des parents homosexuels. Il y a pas de tabou, voilà, dans ce documentaire. C'est ça que j'ai trouvé très beau. Voilà, c'est de pouvoir suivre tous les styles de familles qui peuvent être confrontées à cette difficulté.
Absolument, parce qu'en fait, on a voulu poser nos caméras dans ces familles pour aussi dépassionner le débat, parce qu'effectivement, il y a un débat en France qui est très important, mais sans éluder les difficultés. On n'a pas voulu se mettre d'œillères, on a voulu donner la parole à ceux qui vivent ça, pour justement faire tomber quelques clichés qui sont liés à la méconnaissance, et qui dit méconnaissance, dit peur, et peur irrationnelle, et en faisant connaître de l'intérieur ces familles, on s'est dit que certaines peurs irrationnelles pouvaient tomber.
Est-ce que certaines familles ont eu des difficultés à accepter de se livrer à vous ?
Certaines familles ont eu des difficultés, bien sûr, parce que quand on est dans l'intime, c'est toujours un peu délicat, évidemment. Mais je pense que ces familles avaient envie de communiquer pour deux raisons. Parce que, d'une part, ils ont envie d'être mieux acceptés dans la société française. Et puis, d'un autre côté, ils ont envie que leurs enfants aussi ne subissent pas de discrimination lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils sont à l'école, etc. Donc, pour ces deux raisons, je pense que ces familles ont accepté de se livrer un peu leur intimité.
Vous avez travaillé combien de temps sur ce documentaire et quelle famille vous avez suivi le plus longtemps, quoi, en fait ?
Disons qu'on a travaillé souvent, moi je travaille sur une année, parce que ça prend du temps de créer des liens, de rencontrer les gens, de les trouver, d'établir un lien.
Une confiance réciproque aussi entre vous,
voilà,
oui.
C'est ça. Il y a une confiance qui est très importante, qui fait qu'ils ont envie aussi de témoigner. Donc, ça prend du temps. Donc, comme on fait, c'est-à-dire que on les rencontre, on se parle, on discute sans caméra au début. Et puis, lorsque on arrive avec la caméra pour filmer des séquences qu'on a choisies ensemble, en fait, le travail du documentaire, c'est ça. C'est justement d'établir une confiance. Et ça, c'est très important.
Alors le rendez-vous est pris, hein, l'enfant de tous les possibles, c'est demain soir, un très beau documentaire à ne pas manquer à 20h55 sur France 5 avec donc de Lorraine de Bézieux et ça sera suivi d'un débat à partir de 22h, donc voilà une soirée complète à ne pas manquer sur ce sujet. Merci infiniment Lorraine.
Merci beaucoup à vous, merci beaucoup.
Et puis on va tout de suite se quitter avec un petit extrait en avant-première.
Désir d'enfant, désir d'être père ou mère, désir de fonder un foyer ou de transmettre une part de soi. Les raisons qui nous poussent à vouloir un enfant sont aussi multiples qu'impérieuses. Ces nouvelles familles le savent mieux que quiconque.
Non, j'arrive.
Célibataire, couple d'hommes ou de femmes, couple hétérosexuel ayant laissé filer l'horloge de la fertilité, ils empruntent des chemins de traverse pour obtenir l'enfant désiré.
C'est la nuit.
Tous ces parents inventent, bricolent, construisent leurs propres repères, bouleversant ainsi les lois et notre système classique de filiation. Au-dessus du berceau se penchent désormais de nombreuses fées.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Bonjour Valérie, merci d'être avec nous comme tous les ans.
Bonjour, merci à vous, chaque année, de m'interviewer.
Alors Valérie, évidemment, vous la retrouvez à l'été avec nous, hein, novembre-décembre, on a fêté Noël ensemble avec Mon plus beau Noël sur TF1. Et puis la déco, voilà, ça poursuit hein, quand même, et cette déco à l'Alpe d'Huez qui est magnifique tous les ans. Qu'est-ce qui fait que tous les ans, on te fait appel Valérie ?
Moi je suis venue, c'est la 9e année, je suis venue parce que Clément et Fred, qui sont les organisateurs, sont des amis depuis très longtemps, et que c'était un vrai challenge de décorer une salle de séminaire, gymnase, on va dire, en vrai petit écrin à la hauteur de ce festival. Donc chaque année, c'est un petit challenge. Et puis j'aime ce festival. C'est un des rares festivals de cinéma où il y a une si bonne ambiance et où il y a une programmation incroyable. Chaque année, je vois des films fous. Et puis j'aime la comédie. Je trouve que c'est un genre qui n'est pas assez mis à l'honneur. Et au moins ici, c'est très bien mis à l'honneur.
Est-ce que tu as déjà eu des coups de cœur dans ce que tu as vu ?
Je n'ai vu que des films bien. Je n'aimerais absolument pas être dans le jury parce que ça va être très difficile. Tous les films, que ce soit Jusqu'ici tout va bien, que ce soit Mon bébé, que ce soit Damien veut changer le monde, les films sont vraiment de très haute qualité. Les comédiens sont fous. Oh, je détesterais être dans le jury, ça va être très difficile de choisir.
Si Fred et Clément justement te proposaient un jour d'être dans le jury?
Non, je préfère animer. Je n'ai pas de légitimité à juger un film. Je suis comme monsieur, madame, tout le monde du public. Je ne suis pas encore une comédienne de comédie suffisamment reconnue. Non, je préférerais présenter que être dans le jury. Je trouve que c'est chaque année, en plus le jury est chouette. Non, j'ai pas assez de légitimité.
Alors évidemment, Mon plus beau Noël, ça a duré pendant 2 mois, hein, quasiment cette année. Alors les tournages, je sais, ont eu lieu déjà pour l'année prochaine, ont commencé. Donc l'émission va revenir, 3e saison.
L'émission va revenir parce qu'elle marche super bien, on fait des super parts de marché. Donc là, en décembre et janvier, on a tourné ce qui va être diffusé l'année prochaine. Et moi, je vais faire les rencontres et les plateaux un peu plus tard dans l'année. Mais oui, ça va revenir. Mes plus belles vacances vont revenir aussi. Et je pense qu'on va en tourner d'ailleurs beaucoup plus. Puis sur le reste, on réfléchit. On réfléchit. Les chats, je ne sais pas si ça va revenir.
Oui, la vie secrète des chats aussi.
La vie secrète des chats, parce que ça, c'est en rediffusion sur TFX et ça marche très très bien. Je sais qu'on ne peut pas le faire avec des chiens. C'est mon plus grand drame parce que j'adorais suivre des chiens. Mais pour l'instant, ouais, les plus belles vacances reviennent. Mon plus beau Noël revient. Le merveilleux village de Noël est revenu aussi. Et on a cartonné. Et pour le reste, on réfléchit à ce qu'on pourrait bien faire ensemble.
Pour revenir sur Mon plus beau Noël, quel a été justement pour toi le tournage le plus drôle là, de cette nouvelle saison? Est-ce qu'il y a un couple qui t'a plus marqué que d'autres?
Moi, à chaque fois, je suis toujours bluffée, étonnée et émerveillée de la passion des gens. Quand on m'a proposé cette émission l'année dernière, je m'étais dit, mais c'est très américain, en fait, de décorer les maisons comme ça. On va jamais trouver de gens.
T'as vu les références un peu comme l'émission de Sister qui passe, là?
Et donc, je m'étais dit, mais non, on va jamais trouver de gens assez passionnés. Et en fait, c'est un vrai truc. Et moi, je suis toujours émerveillée parce que les gens ont vraiment une passion pour Noël. J'ai pas de gens particuliers qui me viennent en tête parce que je les trouve tous incroyables. Je trouve qu'ils sont toujours tous hyper touchants dans leur démarche. Je trouve que malgré tout, même s'ils se charclent, ils restent hyper bon enfant et hyper bon esprit parce que, à la fin de la compète, ils s'échangent quand même leurs adresses de où ils ont acheté leur guirlande et leurs trucs.
C'est de la télé et tout ça. C'est bien.
Ben oui, non, même s'ils s'engueulent un peu parce que ils sont passionnés, je trouve que ça reste assez bon enfant quand même. Donc,
on a trouvé un peu plus de bienveillance entre eux cette année, j'ai trouvé quand même pour la nouvelle saison.
Globalement, ils sont assez bienveillants, même s'ils s'engueulent, je trouve qu'il y a quand même, ils s'engueulent parce qu'ils sont tristes de pas avoir gagné ou parce que, évidemment, t'en as toujours un qui dit, ton foie gras, il t'est pas fait maison, un truc. Mais je pense que c'est plus parce qu'ils sont tellement eux passionnés. Quand t'es passionné de quelque chose et que tu vois quelqu'un qui fait la même chose que toi en moins bien, tu fais, mais je trouve que c'est quand même une émission bienveillante, on va pas se mentir. C'est pas trash, quoi.
Bon, en tout cas, on passe Noël et les plus belles vacances ensemble, hein, c'est le cas de le dire. On te retrouve donc en 2019 pour ces deux émissions et leur retour. D'autres projets en télévision ou en ouvrage, puisque tu as écrit aussi?
Écoute, j'ai fait des tutos et je pense que je vais faire une chaîne YouTube de tutos de déco avec mon fidèle compagnon de tournage Phil. On a fait des tutos de bricolage et de déco avec le retour de Bricole Bricolette. On en a déjà tourné 16, je vais en retourner et on va diffuser ça sur le net et ça sera très bien comme ça. Voilà.
Ça va cartonner. J'en suis sûr.
J'espère.
Bon Valérie, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, belle déco. Hein. On monte sur nos photos, hein, sur notre page Facebook. Je suis en écoute la télé. On a fait des photos de la salle pour montrer à nos auditeurs, bien évidemment.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt.
Bonne fin de festival et à très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Allez, cette semaine on va reparler de l'histoire incroyable du facteur cheval. On avait toute l'équipe avec nous il y a une quinzaine de jours avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta et bien sûr le réalisateur Nils Savernier, et nous avons pu passer visiter ce palais idéal du facteur cheval, et nous sommes justement avec Raphaël, adjointe au patrimoine à la ville de Haute-Rive, qui est avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, cette incroyable histoire, même moi qui la connaissais pas encore il y a 2 mois avant d'avoir vu le film, aujourd'hui c'est un film qui permet de connaître cette histoire assez méconnue du grand public. Et quelle œuvre, c'est absolument magnifique, surtout quand vous pouvez la voir en vrai, que je vous encourage en tout cas à faire. Mais déjà, qu'est-ce que vous a apporté ce film et comment cela s'est fait avec Nils Savernier?
Alors, cela s'est fait avec Nils Savernier grâce à Fanny Desmarais qui a écrit le scénario de ce film, et aussi grâce à Alexandra Fechner qui a contacté Nils Savernier pour que ce film se fasse et qu'il soit le réalisateur de ce beau film.
Alors, est-ce que c'est fidèle à la vraie histoire ?
Oui, c'est fidèle à la vraie histoire. Fanny Desmarais s'est vraiment imprégnée de l'histoire de l'œuvre et de l'histoire de l'homme pour faire son scénario.
Alors, il y a eu des scènes qui ont été tournées ici, hein, directement, au Palais Idéal. Comment s'est déroulé le tournage? Comment ça s'est passé?
Alors, le tournage au Palais Idéal a duré environ une semaine et demie. Quand les décorateurs sont arrivés, eh bien, ils ont mis un peu le chantier, on va dire, hein, parce que ils avaient enlevé toute la végétation, enfin toute la décoration des arbustes, des massifs, etc., qu'il y a actuellement, pour remettre le monument dans son cru, dans son jus des années 1900. Et moi, je trouve que ça lui donnait vraiment un cachet, une dimension géniale. Et ensuite, voilà, ils se sont installés dans le Palais Idéal, toute l'équipe, et ça a été vraiment un moment superbe à vivre.
Alors, quand on vit le tournage, c'est une chose. Quand vous avez vu la première fois le film, puisqu'il a été projeté ici, en avant-première, en premier, c'est vous qui avez eu la chance de voir le film en premier. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Jacques Gamblin?
Alors moi, Jacques Gamblin, comme je l'ai vu tourner ici au Palais Idéal, je lui ai dit que pour moi, il incarnait la façon dont j'imagine le facteur cheval. Hein, il représente vraiment le facteur cheval comme je l'ai dans ma tête. Et à l'écran, ben, il n'y a pas de secret, hein, ça ressort et c'est superbe.
Un très très beau rendu. Alors pour visiter ce palais, c'est ouvert toute l'année pour le coup, pour venir visiter ce Palais Idéal. N'hésitez pas à aller voir le film encore une fois au cinéma avant de venir visiter, parce que ça vous donnera justement une dimension un petit peu différente et vous comprendrez mieux aussi cette histoire. Vous avez toute une exposition aussi à côté, hein.
Effectivement, jusqu'à fin mai, on a une exposition qui s'appelle « Ma région en briques ». Ce sont 14 sites de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont représentés en Lego et dont le Palais Idéal y figure.
Alors, l'incroyable histoire du facteur cheval, je vous le rappelle, c'est en ce moment au cinéma. Raphaël, merci de nous avoir accueillis ici. On va évidemment mettre quelques photos sur notre page Facebook. Je t'en écoute la télé si vous voulez les voir. Et puis, si vous passez du côté de la Drôme, c'est pas très loin de Vienne, pas très loin de Grenoble. Profitez-en pour faire un petit détour. Voilà. Merci beaucoup.
Au revoir, merci à vous.
Et on va se requitter avec un petit extrait, évidemment, la bande-annonce.
Tout va bien au palais du fou?
Il est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde!
Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel.
Vous êtes dessus depuis combien de temps?
13 ans.
Joseph!
Il faut qu'il s'y foule.
J'ai cru que j'allais la perdre.
Elle a besoin de ta force. Je dois finir.
Tu vas nous faire mourir.
Alice!
Tu vas guérir, Alice. Me laisse pas tout seul.
Indiscrétion, scoop,
scoop,
news, tout de suite, l'infomédia.
Allez, dans l'infomédia, cette semaine, on démarre évidemment avec la nouvelle édition des Francopholies 2019 hein, de La Rochelle. Vous savez qu'il se tiendra du 10 au 14 juillet prochain avec bien des noms hein, qui sont tombés, ça y est, après M, Christine and the Queen, Soprano ou encore Patrick Bruel, Ayam, Angel, Aya Nakamura, Boulevard Désert. Eh bien, des noms se sont rajoutés puisque Zazie, Deluxe, Jean-Louis Aubert, Gaëtan Roussel, Renan Luce, Cœur de Pirate, Jérémy Frérot, les Ali G, les Radio Elvis et les Trois Cafés Gourmands sont également attendus sur l'esplanade Saint-Jean d'Acre l'été prochain. Un rendez-vous évidemment à ne pas manquer en Charente-Maritime du côté de votre région Nouvelle-Aquitaine. Et puis pour les fans de Léo Mattei, Brigade des Mineurs, eh bien vous allez être ravis. TF1 lancera la sixième saison de la série. Ça sera le jeudi 14 février en prime time. Deux épisodes inédits seront ainsi diffusés. À noter également que Jean-Luc Reichmann sera présent au Festival de Luchon, ça sera le 6 février prochain. Le journal Le 1 qui traite un thème unique chaque semaine s'invite à la télévision sur France Info avec une émission hebdomadaire, a annoncé la chaîne. Tous les mercredis, jour de sortie du journal à 22h30, dans Ouvrez la Une, la journaliste Émilie Tran Nguyen et le fondateur du journal Eric Fotorino vont dialoguer avec des invités sur l'actualité et le monde contemporain en rapport avec le sujet du 1 de la semaine, a précisé la chaîne du canal 27 dans un communiqué. Et puis ça y est, on sait qui va remplacer Juliette Roudet dans la série Profilage. Vous savez que Juliette quitte la série et son personnage d'Adèle à la fin de cette saison. Et c'est la chanteuse Chaim que TF1 a recrutée pour la remplacer pour la prochaine saison donc de Profilage. Et puis ça y est, c'est la bonne nouvelle. Le Palmacho débarque sur TF1 après avoir été présent durant plusieurs années sur C8. Le vendredi 15 février à 21h, TF1 diffusera ce soir ses Palmacho entourés d'invités tels que Alain Chabat, Florence Foresti, Cadmerade ou encore Elise Mood et Fred Testo. Le Palmacho propose une soirée inédite de parodies, clips et fausses pubs comme Grégoire Ludig et David Marseille ont évidemment le secret. Et puis enfin, l'émission Marie au premier regard fait son grand retour sur M6 le lundi 11 février à 21h, avec toujours ses trois experts Estelle Dossin, Pascal de Sutter et Jean-Luc Beaumont qui vont tenter de former cette année eh bien, six couples où leur histoire commencera avec l'engagement le plus fort qui soit possible de prendre, le mariage. Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec évidemment la suite de Chute, on écoute la télé, la dernière partie. C'est Oshi qui nous rejoint, la chanteuse, dans quelques instants. Alors surtout, ne bougez pas, hein, on est de retour dans 3 minutes. À tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Très heureux d'accueillir Oshi une nouvelle fois dans Chute, on écoute la télé. Bonjour Oshi.
Bonjour.
Oshi, heureux de te retrouver.
Bah, heureuse aussi du coup. Bon souvenir.
Alors le soutien continue, tu sais, depuis la sortie de l'album. Voilà, nous on est toujours là en tout cas pour toi. Comment t'as vécu cette année sous le feu des projecteurs en quelque sorte?
Je l'ai vécu. Chaque jour a été différent et j'ai pris tout le bon à prendre et j'ai kiffé quoi. Ça fait du bien.
Alors l'album est sorti le 23 mars. Comment s'est passé cette sortie d'album? Comment les fans ont réagi sur les réseaux sociaux? Je sais que t'es assez attentive à ça. Hein.
Oui, je regarde tout le temps un peu les petits commentaires et tout. Ouais, c'est touchant en général. J'ai des beaux messages. Moi, c'est ma force. Donc je continue de prendre les bonnes ondes à prendre quoi.
Alors tu fais beaucoup de scènes, les franco aussi, ça c'est un mythe quelque part pour un chanteur de faire les francopholies.
C'est complètement un mythe, je suis trop heureuse quoi.
Bon, dis-moi, pour ceux qui n'auraient pas encore ton album, c'est pas bien, on est d'accord.
Je sais pas, j'oblige personne à l'acheter, mais tout ce que je peux dire c'est que j'ai mis beaucoup de mon âme dedans et que je suis contente d'avoir sorti cet album, ça représente vraiment beaucoup pour moi.
Est-ce que quand t'es sur scène, tu en profites pour revisiter les titres de ton album?
Oui, parce que quand j'étais en studio, j'étais dans un certain mood, comme on peut dire. Et puis quand je suis sur scène, je pense à d'autres choses. Enfin, on adapte les chansons finalement en fonction de chaque moment de notre vie, et c'est ce que je fais sur scène, quoi.
Comment tu composes ces chansons, tes chansons, où c'est que tu trouves l'inspiration quand tu écris, puisque tu mets beaucoup de toi aussi hein, dans tes titres.
Bah, y a un mot finalement en général qui me vient. Ça vient d'un mot ou d'un jeu de mots. Et puis j'écris autour de ça. Et puis ça vient d'un moment surtout. En fait, je suis quelqu'un qui prend les choses vachement à cœur, que ça soit du bien ou du pas bien. Et du coup, au lieu de les prendre à cœur et de rien en faire, j'essaye d'en faire des chansons vraiment quoi. Donc c'est un besoin de me vider à chaque fois quoi. Je balance les mots quoi.
Alors ces deux premiers tubes, Comment je vais faire et Ta marinière, est-ce que tu as dans cet album des morceaux que t'as laissé plus ou moins de côté et t'as dû faire des choix par rapport à toutes les chansons que tu composais et pourquoi?
En fait, j'écris beaucoup trop de chansons pour en faire un album, ou alors faudrait que je fasse comme Maître Gims quoi, mais
certains tous les 6 mois quoi.
Ouais, ou que j'en sors 3 en même temps, mais je pouvais pas vraiment faire ça, donc évidemment j'ai mis les chansons qui représentaient le mieux ce que je voulais montrer en premier en fait. Et j'en ai gardé dans mon sac là, j'en ai des chansons pour la suite et je continue d'écrire aussi, donc non, j'ai fait des choix ce qui me parlait le plus à ce moment-là en fait.
Alors avant de continuer Oshi, on va choisir un premier extrait de ton album que tu as envie qu'on écoute là maintenant, ça serait lequel?
Manège à 3.
Écoute, on l'écoute tout de suite.
À vouloir me rincer l'œil cet après-midi, je me suis noyée. J'en ai marre, je suis en deuil de moi-même, tout ça m'a tué. Prépare mon cercueil, c'est absurde, je veux qu'il soit dans ton cœur. Car c'est là que je me recueille d'habitude quand je fais des erreurs. Entre nous, il y avait de l'attraction, mais ça a fini en manège à 3. Vas-y, dis-moi son nom, même si tu me cries que tu le connais pas. Arrête de me prendre pour un con, je sais qu'il a dormi dans mes draps. J'aurais dû faire attention, tout a volé en éclats. Vas-y, balance ce qu'il a de plus que moi. Au final, je pense que même toi, tu ne le sais pas. Et moi, je bosse pendant qu'il est dans mon lit. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. Vas-y, balance ce qu'il a de plus que moi. Au final, je pense que même toi, tu ne le sais pas. Et moi, je bosse pendant qu'il est dans mon lit. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. J'ai perdu ma place, mais je ne suis pas partie chasser. Je n'ai plus de classe, j'ai envie de tout casser. On vit à une époque où les gens aiment se détruire. Et plus rien ne choque pareil, qu'il vaut mieux en rire. Cette nuit t'as foutu en l'air notre mariage. Les petits vont voir leur père faire un carnage. Je vais finir dans la rue, je n'ai plus d'endroit où habiter. C'est cette simple enculée, mais j'ai envie de le planter. Balance que moi. Au final, je pense que même toi, tu ne le sais pas. Et moi, je bosse pendant qu'il est dans mon lit. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. Je perce, n'est pas joli, joli. Je pars à Amsterdam, je ne veux plus de Paris. Ce soir, c'est un drame. Je suis un père trahi par un ami. Il y avait des milliers de femmes sur terre, mais tu m'as volé celle de ma vie. La femme de ma vie. La femme de ma vie. La femme de ma vie.
Alors moi qui t'ai vu à la gestation hein, de ce premier album, Oshi, quand il est parti en public comme ça, on pense déjà à la suite, le deuxième est sur les rails.
Alors oui, j'y pense, parce que forcément on pense à la suite. Enfin, je suis quelqu'un qui me projette beaucoup trop vite et trop, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, je pense trop à l'avenir, même au présent. Et même dans le passé, enfin, c'est un peu un bordel tout le temps avec moi. Et du coup, j'y pense. Après, j'écris un peu, mais j'écris surtout pour une probable réédition d'album.
Comment tu as réagi la première fois que tu t'es entendu à la radio, que tu as entendu Comment je vais faire? Tu t'en souviens? Où tu étais? Ce que tu faisais à ce moment-là?
Il y a eu deux fois. Il y a une fois dans un taxi. C'était bizarre. J'étais derrière. Et du coup, j'étais pas très bien, pas très à l'aise. Je passais à la radio. Et une fois dans un magasin de chaussures avec ma mère. Elle était en train d'acheter des chaussures. Et j'étais vraiment au tout début. Et j'étais vraiment pas bien. Ça faisait bizarre, en fait. Et ma mère, du coup, elle était, mais c'est toi. Je fais, oui, je sais, maman. Enfin,
c'était t'as un... pas vendu à mèche à la caissière?
Ah, si. Mais elle a pas eu de chaussures, hein. Mais,
Alors, t'as eu un cheminement un petit peu inverse par rapport aux artistes. T'as commencé par la scène et à présenter tes chansons sur scène avant de sortir cet album. Est-ce que pour toi, ça t'a facilité un peu les choses, justement?
Alors, j'ai commencé même avant, par la rue. Je jouais dans la rue, quoi. Donc, je jouais dans la rue. Après, je jouais un peu dans les bars parisiens. On a commencé à faire l'EP et j'ai commencé un peu à le défendre sur scène l'été dernier. Du coup, je pense que ça m'a permis de regarder mon projet de loin, en fait, d'avoir un regard sur ce que j'allais faire et de pouvoir amener la scène d'une manière moins stressante, parce que du coup on a commencé la tournée, en fait on savait déjà ce qui allait se passer, enfin on savait déjà sur scène comment on allait être, quoi.
T'étais surprise du succès grandissant depuis quelques mois, comment tu le vis?
J'ai senti, quoi. Enfin, j'ai vraiment senti la différence, quoi. Bah, déjà, on me reconnaît dans la rue. Avant, on me reconnaissait pas. Ça fait bizarre. Quand tu vas acheter ton pain et qu'il y a quelqu'un qui chante ta marinière. Tout ce genre de choses, ça fait chelou. Mais, ça fait chaud au cœur. Mais du coup, je l'ai senti, quoi.
Des petites anecdotes, comme ça, ouais. qui sont drôles.
Oui, mais qui arrivent de plus en plus. Et finalement, tu sens la différence par rapport à avant, quoi.
Quel est le message le plus sympathique, le plus touchant que tu aies pu recevoir en sortant de concert sur les réseaux sociaux par rapport à après la sortie de ton album et à tes textes?
J'ai eu une dame qui m'a envoyé un commentaire, en fait, sur YouTube, qui m'a vraiment retourné. C'était, en fait, elle a un cancer et elle écoute mes musiques en boucle et tout, et ça lui fait du bien, et moi je trouve ça ouf que je puisse participer à des batailles aussi, genre ça me touche vraiment, quoi.
C'est pour ça souvent que vous faites ce métier aussi?
Ah, c'est complètement pour ça, ouais. Si je peux apporter des mots sur des mots, par exemple. Moi, c'est un peu ça que je cherche. Ça fait vraiment du bien, quoi.
Allez, avant de se quitter, un deuxième extrait. On va pas bouder notre plaisir. Tu sais qu'on est fans. Nous, depuis le début, on est là pour te soutenir. Alors, on s'écoute ce nouveau single?
Allez, ce nouveau single, c'est Femme à la mer.
Écoute, on te remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous. On t'embrasse très fort et bonne route à toi pour retrouver toute ton actu. On peut aller sur ton site, ta page Facebook.
C'est ça, ma page Facebook. Sinon, après, il y a mon tourneur Caramba où il y a toutes les dates que je fais. Voilà.
Bon courage pour la suite et à très vite, Oshi. Merci.
Merci beaucoup, à très vite, salut.
Je fume le cigare comme une cubaine,
le cendard rempli de mes peines. Paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Les amours tour à tour me mentent, je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser. Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir, belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air. Feront peut-être deux âmes sœurs, pourront renaître. Deux âmes seules valent mieux qu'une. Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute on écoute la télé, nous aurons le plaisir de vous proposer une spéciale Nicky Larson. Oui, à l'occasion de la sortie du film tiré du dessin animé des années 90, nous recevrons toute l'équipe qui seront avec nous. Nous recevons Philippe Lachaud, évidemment le réalisateur, mais aussi Elodie Fontan. Nous recevons Tarek Boudali. Nous recevrons également Julien Ruti. Nous recevrons également celui qui joue le rôle de Mammouth. C'est son premier rôle au cinéma. Nous en parlerons évidemment avec lui, avec Kamel qui sera là. Et puis aussi, nous reparlerons de la série Sam, hein, puisque nous allons soutenir la diffusion tout au long des semaines. Et c'est un personnage, celui de Véronique, fait avec Fanny Gilles, que nous recevrons lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chute, on écoute la télé, la quotidienne sur Radio Bulle dès 11h. Et puis en attendant, je vous donne rendez-vous évidemment dès lundi prochain à 19h pour la grande hebdo. Alors d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous et une très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.